Bonjour à tous, le bistrot du FIPA, dernière édition, le bilan des derniers jours du festival avec moi-même Sullivan Le Postec et Émile Flamand.
Bonjour.
C'est parti. On va faire un point sur les dernières projections dont on n'avait pas encore parlé dans nos dernières éditions. Alors j'ai vu une série qui s'appelle Les Mystères de Lisbonne, qui en fait est une production portugaise, mais globalement financée par Arte France en fait. Donc visiblement Arte s'est porté au secours de ce projet. C'est pas sûr qu'ils auraient dû. En fait, ça m'a vraiment donné l'impression de revoir. De revoir la Rivière Espérance, genre une bonne petite saga du début des années 90, voire de la fin des années 80, genre un peu classieuse pour l'époque, sauf que 20 à 30 ans ont passé. C'était horriblement daté, c'était très très théâtral dans la mise en scène, dans les jeux des acteurs, dans les déplacements des caméras, qui c'est en l'occurrence inexistant. Quasiment toutes les scènes, c'est des plans séquences avec deux positions de caméra, les personnages entrent, je bouge, je me mets dans la deuxième position, la scène dure 2 minutes, ils se lèvent et ils partent, je rebouge la caméra pour les suivre. Enfin, voilà, c'était à peu près les seuls mouvements de caméra qu'on avait. C'est une histoire un peu plus banale, le petit orphelin, il est le fils d'un amour contrarié, de blablabla. J'ai regardé un seul épisode, il y avait accès aux 6 épisodes, c'était ennuyeux à mourir, passons. Tu as vu Five Daughters?
Oui, un morceau, j'avoue que je n'ai vu qu'un morceau, j'ai même pas eu le temps de finir totalement le premier, mais donc c'est, Five Daughters c'est une mini-série anglaise en 3 épisodes, qui en fait reprend une histoire, un fait divers qui est le meurtre de 5 jeunes femmes en 2006 dans une petite ville qui s'appelle alors je n'ai jamais réussi à le dire, je vais dans une petite ville anglaise, et en fait 5 jeunes femmes qui en gros avaient des problèmes de drogue et de prostitution. Sauf que au lieu d'aborder le sujet d'un point de vue l'enquête, le côté glauque de ces meurtres et de ce tueur, le point de vue qui a été adopté par l'équipe, c'est en fait de se rapprocher des familles des victimes qui avaient à l'époque beaucoup souffert de l'image qui avait été donnée de leur fille, donc en tant que prostituée en gros, et que c'est à cause de ça qu'on les avait tuées, pour travailler sur le parcours de ces victimes, de ces 5 femmes, sur pourquoi elles étaient tombées dans la drogue, pourquoi la prostitution, comment, quels étaient leurs liens, etc. Plus leur personnalité et leur famille et leur combat. Et c'est extrêmement bien fait, il faut l'avouer. Il y a 3 des familles sur les 5 qui ont participé au développement. C'est très sensible. Alors, je ne vais pas dire que c'est pas glauque, si vous voulez. Mais c'est quand même très sombre, parce que on voit ces 3 femmes principalement qui ont des problèmes avec la drogue, qui ont des problèmes de violence parfois, qui ont des problèmes. Enfin, mais c'est vraiment très bien dosé pour ne pas tomber dans le pathos, pour rester sur ces portraits juste de filles qui essayaient de se battre et qui ont été tuées, avec tout l'esthétique anglais et la sobriété. Quand je dis sobriété, on tombe pas dans l'histoire justement de Sullivan avec 2 pauvres plans qui permettent de le juger, mais on tombe pas non plus dans les on sait doser, et on a une image qui est très, un esthétique très éclairé, très froid. Et ça donne tout le côté réaliste en fait à cette histoire, et ça l'ancre beaucoup. Donc c'était très très bien ce que j'en ai vu. Je regarderai les 3 suivants, j'en ferai une critique plus complète. Mais voilà, en tout cas une très bonne surprise qui a donc eu le FIPA du meilleur scénario pour série fiction, série et feuilleton.
J'ai également vu The Song of Lunch. Alors ça c'est un unitaire de 47 minutes de BBC 4. Sachant que BBC 4 c'est la 4e chaîne du groupe, qui n'émet pas forcément toute la journée, c'est une chaîne numérique et qui a des exigences un peu autorisantes, un peu plus arty, voilà. Et donc en fait The Song of Lunch est une adaptation d'un poème, et c'est une tentative de fiction poétique. C'est très très bien joué par les 2 acteurs, en fait c'est 2 amants qui on voit leur retrouvaille autour d'un dîner dans le même restaurant là où ils ont rompu 15 ans plus tôt. Donc il y a énormément de voix off qui, j'imagine, citent directement le poème. C'est assez joli, c'est très très bien réalisé. Il y a des jolis plans avec des jolis inserts et qui s'insèrent bien dans le flow. Ils font pas. Enfin, des fois, il y a des inserts qui sont mis dans les fictions et on a trop l'impression que ça a été filmé un autre jour par des gens différents que les autres plans de la scène. Là, c'est pas le cas. Il y a une belle fluidité dans la réalisation, mais malgré tout, voilà. Enfin, c'est quand même. C'est pas inintéressant, mais honnêtement, c'est un plan de milieu, quoi.
Voilà. Dis-le que c'est chiant.
C'est dit. Et allez, on passe rapidement à la dernière projection qu'on ait vue. Là, c'est une série en l'occurrence. C'est même la série qui a remporté le FIBA d'or de la meilleure série. C'est Borgen. Emilie a vu le premier épisode, oui. J'ai vu les deux premiers. Alors Borgen, c'est en fait une série politique danoise de la même chaîne qui nous avait donné The Killing l'année dernière. C'est le même format, c'est-à-dire que la première saison compte 20 épisodes, je ne sais pas si c'est une première saison ou une saison unique en fait.
Ouais, ouais.
En tout cas, il y a 20 épisodes de 55-60 minutes. Et donc en fait, on suit une leader politique qui s'appelle Birgit Nyborg, qui est la leader du parti modéré, qui est en gros l'espèce de modem local. Et en fait, on est à 3 jours des élections et c'est un système... parlementaire où suivant le nombre de sièges qu'il y a au Parlement, on forme des coalitions qui forment majorité qui décident du Premier ministre. Et bon, il y a tout un tas de rebondissements dans le pilote qui est un peu sa limite parce qu'au bout d'un moment, quand ils s'additionnent les uns sur les autres, disons qu'il y a 3 événements qui, tous les 3, sont improbables, qui se passent tous les 3 en même temps à 3 jours des élections. Donc la somme des 3 éléments improbables cumule un taux élevé d'improbabilité, quoi.
Ouais, disons que c'est un peu le point faible. C'est si vous arrivez à passer outre et à l'admettre, en fait, vous pourrez accrocher, vous pouvez vous mettre dans l'histoire, etc. Et c'est vrai que ça donne du rythme. On peut pas reprocher à la série. En tout cas, moi j'ai vu le premier et on peut pas lui reprocher d'être trop chargé dans le sens trop rythmé, on ne comprend pas, etc. Par contre, il faut passer sur le fait que c'est vraiment de la fiction parce que tout ça en 3 jours, mais même tout ça de base, tout ça sur une même campagne de base, ça serait déjà énorme, avec tout ce que ça peut avoir sur voilà, on prend 5-6 personnages principaux et on les entremêle à un niveau alors que justement c'est des opposants, c'est qui pour que ça devienne improbable. Maintenant ouais, c'est ça, faut admettre que c'est de la fiction et que même si c'est de la fiction politique, ça ne se veut pas réaliste.
Et en fait, et donc tout ça, tout ce dispositif permet en fait de justifier l'élection, enfin le fait que l'héroïne gagne les élections, son parti, et qu'elle, du coup, elle soit en position de devenir première ministre, elle est la première femme première ministre du Danemark. Et donc à partir de là, enfin voilà, ça justifie cette élection qui n'était pas prévue, et c'est relativement intéressant parce que du coup, on voit arriver au pouvoir une personnalité qui est un petit peu originale. Donc voilà, l'héroïne est vraiment super super attachante. C'est un très bon personnage et c'est une très bonne actrice. Elle est en couple avec son mari. Ils forment un super couple, vraiment vraiment très très attachant. Moi, ça me fait vraiment penser, et l'actrice me fait aussi penser d'ailleurs au Taylor dans Friday Night Lights. Je trouve qu'il y a, voilà, il y a cette dynamique chaleureuse dans le couple, cette compréhension mutuelle.
Bah, disons qu'ils arrivent, c'est ça aussi la force, et ce qui fait surtout digérer l'histoire de l'improbabilité de l'intrigue, c'est qu'ils arrivent à avoir des personnages très vite caractérisés, aussi bien dans leur position que dans donc dans leur position politique, dans leur morale, etc., que dans leur humanité, les liens qu'ils ont par rapport aux autres, jusqu'où ils sont prêts à aller, etc. Donc on a une première base qui est très vite posée par leurs actions, et pour autant ça sent pas artificiel.
C'est assez naturel.
On a une vraie empathie qui se crée, et même alors pas pour les méchants de l'histoire à proprement parler, mais pour on va dire quasiment tous les protagonistes, même ceux qui sont pas forcément très nets, on a tout de suite une humanité qui s'installe, et c'est là le gros point positif en fait de ce début d'intrigue.
Les personnages sont vraiment réussis et attachants. Il y a plein de figures qui sont assez bien caractérisées. J'ai beaucoup aimé la vieille journaliste alcoolo qui en fait se fait virer de son poste parce qu'elle est alcoolo, tout simplement. Mais en fait, on se rend compte dans la progression de l'intrigue que c'est vraiment la meilleure journaliste de la place, et que elle voit bien que telle négociation elle dure trop longtemps, que ça veut dire qu'il est en train de se passer ci ou ça, alors que tous les autres sont largués, ils se rendent pas compte, ils savent pas décrypter les signes donnés par les spin doctors, et ils s'en tiennent à la story qui est délivré par les officiels, et ils n'arrivent pas à voir ce qui se cache derrière, alors qu'elle, elle est vraiment capable de le sentir tout de suite, ce qui va mener à des problèmes, on le sent très bien. Ouais, parce qu'elle c'est va possible. Elle va sentir que, enfin, qu'il s'est passé des choses louches dans le premier. Le spin doctor qui bosse pour la première ministre est aussi vachement intéressant, partagé entre le respect qu'il a pour l'idéalisme de sa patronne et lui il est là pour la faire gagner quoi, donc
oui, puis même globalement son lien aussi avec l'autre journaliste, enfin c'est vrai que disons que les problématiques du départ sont improbables, mais en même temps elles ouvrent beaucoup de pistes pour la suite,
parce qu'il y a une petite jeune journaliste en fait qui en gros dans son grand respect de la déontologie, n'est-ce pas, couche avec à peu près tout ce que le Danemark compte de conseillers politiques. Voilà. Donc son ex, c'est le spin doctor de Birgit Nielsen, enfin, et son actuel, c'est le chef de cabinet du Premier ministre.
Du Premier ministre sortant, qui remet en cause son mandat. Son mandat. Et c'est vrai que globalement. C'est tout à fait ça en fait. Et mais en même temps, elle est très attachante aussi.
Exactement.
C'est-à-dire que elle commence très mal parce que c'est la journaliste qui est dedans, qui raye le parquet dans la rédaction. Donc déjà, elle énerve un peu tout le monde. En plus, elle est magnifique, cette nénette. Elle est blonde, super mignonne. Et donc, on a juste envie de la baffer parce qu'on a l'impression que tout lui réussit. Et forcément, entre le fait qu'elle a les dents qui raillent le parquet, qu'elle se débrouille pas trop mal et qu'elle est plutôt bien foutue, tout marche pour elle. Elle couche avec tous les beaux gosses de la série, même si bon, c'est pas non plus les plus beaux gosses qu'on ait vus dans les fictions, mais bon, voilà, c'est des Danois. Ils sont quand même pas mal du tout.
Le spin doctor, il est charmant.
Voilà. Et globalement, normalement, elle a tout pour qu'on la déteste, en fait. Mais,
sachant que ce qui est intéressant, c'est que du coup, ce qui participe du fait qu'elle est attachante, c'est que c'est elle qui remplace la journaliste Alcolo, alors qu'en fait, elle a rien fait, c'est pas de sa faute à elle.
Elle est un peu accusée par cette journaliste.
Elle se fait accuser d'être celle qui a envoyé l'email qui a dénoncé son alcoolisme. Et donc du coup elle est accusée à tort, et au moment même où son amant vient de mourir dans ses bras d'une crise cardiaque, et elle sait bon bref, mais voilà, donc du coup ça rend les personnages attachants.
Oui, puis c'est enfin sa réaction aussi, sa façon de réagir à cette mort, etc. Enfin il y a tout un pas, c'est ça qui est très fin dans l'écriture. Si c'est un peu les grosses machines au départ, derrière on déroule bien les persos en fait, et c'est ça l'avantage d'une série, c'est ça le but d'une série, c'est pas uniquement l'intrigue en elle-même, c'est aussi ce que ça implique sur les persos et leur évolution. Et c'est en ça qu'elle est très bien réussie. En tout cas, pour ce qu'on en a vu, après avoir comment ils évoluent sur 20 épisodes. Mais alors, a priori.
Après, en fait, donc, une fois passé l'élection et donc tous ces éléments improbables du pilote, le deuxième épisode est assez réconfortant parce qu'il est beaucoup plus, centré, il est beaucoup moins improbable. En fait, on suit donc les tractations parce que maintenant que tout le monde a été. Que le Parlement a été élu, il faut former la coalition qui va permettre de faire le. De décider du gouvernement et du Premier ministre. Birgit Nyborg et son moderate party, elle est arrivée en tête, elle a le maximum de sièges, elle a la majorité relative de sièges, mais ça suffit pas pour faire un gouvernement. Et donc du coup, il faut que les blocs s'assemblent. Et là, il y a une partie de poker menteur parce que Birgit Nielsen, elle a pas beaucoup d'expérience politique, et son idéal politique, c'est un idéal de parler aux gens d'égal à égal, de travailler ensemble, de rassembler les forces. Et elle a face à elle des apparatchiks.
En fait, c'est qu'elle est très idéaliste de base pas du tout dans. Enfin, de toute façon, elle s'attendait pas à gagner, elle s'attendait pas à continuer. On la rencontre au moment où, en gros, elle se dit. C'est la fin de ma carrière, cette élection.
Et du coup, elle se retrouve vraiment avec les gens, les politicards au cou bien tordu, qui ont tous 20 poignards dans le dos, mais qui en mettent autant dans le dos des autres. Et donc, du coup, est-ce que en fait, elle va être la victime de ce grand bluff, et même pas se retrouver première ministre alors qu'elle a gagné les élections par une grosse majorité ou pas. Il y a un personnage d'ailleurs qui a un moment intéressant et qui est traité de manière assez fine par les scénaristes, alors que ça pourrait être un piège, qui est le leader du Freedom Party, qui en fait est le parti de droite xénophobe du Danemark, mais qui est quand même un peu plus fréquentable que par exemple le Front National chez nous, parce qu'il est en fait en coalition avec le premier ministre de droite sortant, donc il est associé à la majorité, lui il a quand même des idées bien puantes, mais c'est un espèce de vieux monsieur sympathique en fait, et quand elle est élue, elle commence ses tractations, elle veut rencontrer tous les chefs de parti, et elle commence à lui parler, et elle veut même lui parler parler à lui alors que bah, qu'ils ont rien en commun. Et en fait, il arrive et il lui fait remarquer, bon, écoute, on n'a rien en commun, toutes tes idées une par une, moi je suis contre, je pense que c'est exactement ce qu'il faut pas faire, donc je vois pas exactement très bien ce que je fais là et pourquoi tu veux qu'on discute. Et par contre, je te donne un conseil, tu t'es mis au milieu de la table, si tu veux présider les débats, mets-toi en tête de table, donne le sentiment aux autres que tu as le pouvoir et que tu diriges. Et dès le début de l'épisode, ça donne le ton, on voit que voilà que, ouais, que ça va la trahir, qu'elle veut trop respecter les autres en fait. Donc une série très intéressante. Donc après ces deux épisodes, maintenant en fait, enfin c'est pas un énorme spoiler, on se doute bien qu'elle va devenir première ministre, parce que c'est un peu le principe. Et donc du coup, il reste quand même 18 épisodes de la voir voilà. À l'exercice du pouvoir, traiter de sujets politiques. Forcément, ça va être assez différent de la série qu'on a vue, parce que c'était une sorte d'introduction.
Et c'était forcément rythmé d'une autre façon aussi, parce que l'enjeu était pas le même. On a aucune idée de ce que ça donne non plus, quoi. Ouais. Enfin, à vrai dire, et même au niveau des persos, parce que 18 épisodes, c'est des formats que en Europe, on n'a pas beaucoup l'habitude de traiter.
C'est clair.
20 épisodes d'affilée.
Donc j'ai assez hâte de voir ça. La rumeur veut que Carté soit sur les rangs pour l'acheter, comme elle avait acheté déjà The Killing.
Et vu qu'Arte est très présent au FIPA,
voilà, donc c'est écoutez, pas improbable. Et qu'en plus, voilà, la série a été récompensée du FIPA d'or, on devrait normalement l'avoir débarqué sur Arte. Un petit mot sur les conférences auxquelles on a assisté. Il y a eu d'abord une conférence sur la télé connectée,
oui.
Dont tu as déjà fait d'ailleurs un rapport avec un article,
voilà,
sur le site.
Alors oui, donc en fait la télé connectée, faut pour remettre dans le contexte, donc c'était une conférence sur la télé connectée, la création. En gros, est-ce que la création va passer par cet aspect de télé connectée et quel est le lien entre les deux? C'est une conférence qui était pour tout dire, franchement tourné vers les professionnels du secteur, donc vers les chaînes, vers les prods, vers les... C'était organisé par la SCAM et la SACD, donc les sociétés d'auteurs. Globalement, l'article que sur lequel j'ai travaillé reste pour exposer la problématique centrale. Je ne suis pas rentrée dans les détails de tout ce qui a été dit dans la conférence. Ça devenait plus ou moins technique, vu que c'était des questions de durée de droit, etc. Donc je me suis dit qu'on allait rester simple. Mais il y a deux, trois points qui étaient assez sympathiques. Et juste en petite anecdote, suite en fin de conférence, sur la question de la durée des droits à accorder pour les diffuseurs, parce qu'il y avait une problématique qui était notamment de dire... attention pour les producteurs, vous considérez qu'Internet c'est une opportunité potentiellement pour revendre la série ou les vos productions ailleurs après que les diffuseurs en fait aient perdu les droits, les diffuseurs télé, ou alors en parallèle avec des contrats, etc. Faites attention parce que nous on trouve pas ça normal. Pour nous, il faut que la personne qui a pris le risque de financer, donc c'était un des patrons d'M6, c'était le directeur des contenus et des programmes du groupe qui disait ça, que pour lui il fallait que la prise de risque, la chaîne qui a pris le risque de produire ces éléments conserve en gros sa propriété dessus le plus longtemps possible. Et l'anecdote rigolote, c'est qu'il a quand même été jusqu'à dire que pour lui c'était pas normal qu'M6 ait réussi à acquérir les droits d'un gars, une fille qui avait été produit par largement financé par France Télé. Joli petit mea culpa après tout le débat que ça avait pu provoquer il y a quelques temps, alors que bon, clairement M6 l'a acheté. On va pas dire qu'il pouvait pas ne pas être au courant, vu que c'est quand même le directeur des programmes et des contenus. Oui, ça fait des grosses audiences, oui, ça bouge super bien les grilles, il n'y a pas mieux pour pouvoir passer justement combler les petits trous de la grille de programme d'M6, donc c'était nickel. Et donc dire après coup, après l'avoir acheté, ça a fait un petit côté un petit peu ah oui, c'est pas bien, mais bon, on le fait quand même
et on le refera la prochaine fois,
mais au moins on aura dit c'est pas bien pour se protéger de nos propres contenus. Mais globalement, c'est vrai que la conférence était extrêmement intéressante, comme tout le débat actuel sur ce type de problématique. Et ça reste très flou dans le sens où, ok, on a ça, il y a plein d'évolutions, faut qu'on s'y mette. Par contre, tous les camps restent sur leur position. Ils sont tous à table, mais ils veulent pas bouger de leur petit confort. Aussi bien d'ailleurs les acteurs télé que les acteurs internet.
C'est à celui qui sortira le premier euro, mais personne ne
veut
le sortir.
En gros, les uns financent et ils disent « Ah, mais on a marre de financer pour les autres. » Les autres disent « Mais nous, on n'a jamais demandé à ce qu'on ait ce contenu-là, machin. Pourquoi est-ce qu'on irait financer ? On ne peut pas se le permettre. On est une économie encore fragile. » Ça, c'est le côté Internet. Et globalement, au final, la conférence repose les mêmes questions, mais en place les problématiques. Et comme quoi, il y a tout un cadre à définir qui n'est absolument pas défini, qui commence à se définir très laborieusement actuellement. Donc, à suivre, ça viendra forcément plus dans les problématiques, parce qu'avec les Google TV & Co, forcément, c'est des questions qui sont actuelles et mondiales. Maintenant, à quel point c'est une priorité ? À quel point est-ce qu'on va réussir dans les mois et les années à venir à se dépatouiller tout ça ? C'est loin d'être clair.
Bon, et puis, très très brièvement, on a vu une conférence aussi qui s'appelait Télé-engagement, Télé-résistance, autour de Jérôme Clément d'Arte et d'un certain nombre d'auteurs de documentaires et de producteurs de documentaires qui ont parlé de ce thème. C'était pas forcément la conférence la plus passionnante de l'histoire de l'humanité, mais c'était assez intéressant quand même, surtout la première partie, enfin le début.
Disons qu'il y avait les grands points qui ont été abordés sur la question de la neutralité, ce genre de choses, en fait. L'idée que la neutralité
était, objectivité, voilà, honnêteté, quel est le vrai concept et le concept pertinent.
Comment aborde-t-on un documentaire, etc. Ce point-là était intéressant. Puis d'avoir le différent point de vue. Après, il faut avouer qu'il y a eu énormément de... En fait, c'est chacun des interlocuteurs a donné son avis, mais pas forcément que son avis, a aussi raconté beaucoup d'anecdotes ou par rapport à un de ses documentaires en particulier, et qu'il faut bien l'avouer, si on n'est pas passionné par le documentaire, c'est un petit peu plombant. Mais voilà, globalement, la thématique était très intéressante. J'aurais bien aimé voir comment transposer le débat un peu à la fiction, parce que clairement, ça n'a pas du tout été abordé. Et d'ailleurs, même à un moment en question, on n'aurait même pas pu l'aborder vu le panel, en fait, vu que c'était vraiment orienté documentaire. Mais justement, quel engagement peut-on prendre dans de la fiction ? Est-ce que la fiction politique est jouable, etc., dans un pays comme le nôtre ? Jusqu'où on peut aller ? Quelle pression on peut subir ? Et tout ce débat-là a été complètement laissé à côté parce que ne correspondant pas au panel. Volonté ou non.
Ouais, mais c'est vrai que la question de l'engagement pour le documentaire se pose. Je crois qu'en fiction, elle est encore un peu tabou quand même.
Voilà, c'est surtout, on sent un peu ce côté-là. C'est-à-dire que le documentaire a ce côté noble, je suis journaliste, enfin, je fais du reportage, je montre des vérités, etc. Tandis que sur la fiction, rapidement, on a l'impression qu'on tombe dans de la subjectivité et que du coup, on occulte et on refuse ce type de point de vue. Donc, bon, dommage que la fiction n'ait pas été abordée, mais globalement, les grands axes de la conférence étaient intéressants.
Bon, et puis donc hier soir, grande cérémonie de clôture, remise des prix des 5 jurys en fait du FIPA. Il y a 3 jurys qui concernent le documentaire, les grands reportages et les spectacles, musique et danse, je ne sais plus. Et donc, on va rester sur les catégories fiction et séries feuilleton. La cérémonie présentée par Bruce.
Et non Brice, comme il a été annoncé hier.
Toussaint était plutôt sympa, plutôt fluide, assez agréable à regarder. Pas de gros impairs à signaler en termes de ce qui était dit, etc. On a juste
des extraits un peu courts pour chacune. En fait, à chaque fois qu'il y avait un prix, il y avait l'extrait qui était relativement court, qui devait faire 15 secondes, un peu coupé à la machette.
C'est ça, et assez hors de contexte. Ça donnait assez rarement une idée de ce que ça peut bien être.
Et avec à chaque fois, par contre, la redite de toutes, parce que clairement, même sur la fiction, c'était souvent les mêmes qui avaient plusieurs récompenses, et à chaque fois, on repassait par le titre, l'auteur,
le scénariste, le réalisateur, le producteur, le pays de.
C'était juste le truc absolument imbuvable qui était plus long que l'extrait et qu'on avait le droit 4 fois, alors qu'on était dans des langues étrangères obscures avec des prononciations très aléatoires des interlocuteurs.
Les pauvres présidents de jury qui se débattaient avec les noms et tout. Bon, et on s'est bien marié avec la traductrice.
Ah, c'était terrifiant. Alors, moi, je veux une mention spéciale. On avait déjà bloqué à un moment sur des trades. Enfin, moi, j'avais déjà entendu plusieurs fois des trades
C'était relativement approximatif par rapport à ce qui avait été dit, si vous voulez.
Mais là, on est carrément arrivé à des contresens. C'est ça,
on est arrivé à un moment donné où elle a juste dit quelque chose qui ressemblait vraiment. Enfin, il y avait quelques mots-clés qui étaient communs avec ce que le mec avait dit, sinon ça ne voulait pas du tout dire la même chose.
Vous dites l'inverse. En gros, c'était par rapport au film de la fiction matin, où il y avait le réalisateur de. Je te laisse dire le nom du truc.
De Maška Asfalta.
Voilà.
Le film croate, donc qui était le samedi matin encore en Croatie. Et il dit qu'il cuvait de sa soirée de la veille, que son téléphone sonne à 9h30. Écoute, il faut que tu sois à l'aéroport à 11h parce qu'il faut que tu ailles à Biarritz, t'as un prix. Et donc là, il se le sentait pas trop d'être à l'aéroport dans 1h30 alors qu'il était encore à moitié sous sur son lit, pas douché. Et ça devient donc il a dit ça en anglais, ça devient traduit dès ce matin quand je me suis levé à 9h, j'ai senti que ça allait être une journée formidable avec le soleil de Biarritz.
et j'ai bien fait de rester alors qu'il n'était même pas là avant. Donc c'était juste monumental. À ce moment-là, je pense que avec Sullivan, on s'est retourné l'un vers l'autre d'ailleurs de dire est-ce qu'on est complètement nul en anglais ou est-ce que la traductrice a pas écouté et a baratiné quelque chose en deux mots? On n'a pas compris. Mais bon, spécial, en tout cas, fille pas d'honneur à cette traductrice qui était absolument monumentale.
Au moins, c'était rigolo. Et puis donc, j'ai déjà posté le palmarès en ligne pour les catégories fiction et série feuilleton. Catégorie fiction unitaire, donc le grand gagnant, c'est le fameux Maška Asfalta.
Et l'infiltré, après, en deuxième position.
Voilà, bon, Maška Asfalta, j'avais posté une critique complète. C'est vrai que c'est vraiment un film remarquable, très poétique, très joli. J'avais été assez surpris d'ailleurs parce que vous allez voir un téléfilm croate, c'est une mère de famille qui part avec son enfant et qui devient SDF. Bon, voilà, il faut juste qu'on soit sincère, vous vous précipitez pas dans la salle, hein. C'était vraiment très réussi, avec un petit côté finalement, pour donner une idée de l'ambiance, presque Lost in Translation en fait, quand cette femme. Déambule un peu dans les allées de ce centre commercial, seul au milieu de la foule et au milieu des signes de modernité. C'était vraiment assez intéressant, le travail sur les personnages qui était très subtil. C'était très très bien joué, d'ailleurs l'actrice principale a le prix de l'interprétation. L'infiltré aussi, donc prix de l'interprétation pour Mehdi Gherab. Qui était effectivement brillant dans le film
et qui était là hier, c'était le seul
acteur, même si je continue de penser que malheureusement il était sous-servi par le scénario et que s'il avait eu plus de matière dans lequel mettre ses dents, il aurait pu être vraiment meilleur je trouve que son personnage en termes d'écriture était pas assez fouillé, mais que malgré le fait qu'il a rien à jouer, il est épatant, donc enfin il mérite vraiment son prix. La fin, c'est juste un plan sur lui. Il a les larmes aux yeux. Il était vraiment épatant. Côté catégorie série fiction, donc la grande gagnante, vraiment grande gagnante, c'est Borgen.
Avec trois
FIPA, elle toute seule. Donc, c'est une très bonne série. Donc, il y a pas de scandale. Voilà. Il y a deux prix, je crois, meilleur scénario et l'interprétation féminine.
Non, meilleur scénario, c'était Five Daughters. C'est FIPA d'argent et interprétation féminine.
Pour Sierra ou Una, enfin bref, il était une fois dans la Cité des Fous.
Voilà, on va le faire en français. Série
italienne. Donc, que Karine avait vu. Et dont elle avait, par laquelle elle avait été aussi très agréablement surprise. Donc voilà, on a un gros regret quand même, c'est qu'honnêtement, les beaux mecs méritaient largement un prix. C'est l'oublié du festival, ça arrive. Est-ce que j'ai oublié quelque chose?
Non, a priori. Jolie petite soirée mouton ensuite.
Oui, voilà, et puis donc après on a été à la petite soirée de clôture qui célébrait Arte, parce que c'était un peu Arte qui était à l'honneur dans ce festival pour ses 20 ans, pour son Eurofipa d'honneur. Donc il y avait quand même les moutons d'Arte en vrai. D'ailleurs, la rédaction du village a une photo pour le prouver.
Dominique, rien que pour ça, tu devrais être content de pas être venu. Parce que à mon avis, nous on a fait la photo, je pense pas que tu serais venu avec nous faire la photo avec les deux madames moutons. Je pense pas.
C'est dit. Écoutez, voilà qui conclut très provisoirement notre couverture du FIPA, très provisoirement parce qu'on a du stock. On a des interviews, des conférences filmées. Donc on a de quoi vous montrer tout ça les prochains jours, la prochaine semaine, voire les 10 prochains jours même. En attendant, donc revenez vite nous voir et bonjour chez vous. À bientôt.
À bientôt.